Bonjour chers auditeurs, voici l'esprit du livre, Catherine Mann au micro pour vous présenter l'émission avec les parutions de livres récents ou plus ou moins récents qui concernent directement la foi chrétienne et parfois indirectement aussi d'ailleurs. Voici d'abord le père Roger Wilhelm qui va vous présenter un premier ouvrage enregistré depuis sa maison de retraite.
Voici un premier livre, Paysages d'hiver, en ce titre Voyage en compagnie d'un sage, de Christine Jordis, paru chez Albin Michel, au mois de janvier 2016. Membre du prix Femina, collaboratrice du Monde des Livres, auteur de nombreux ouvrages, dont William Blake ou L'Infini. Jean de la Tamise et d'autres rivages, Une vie pour l'impossible, Christine Jordis a été responsable de la littérature au British Council et a dirigé la littérature de langue anglaise aux éditions Gallimard. Elle est aujourd'hui membre du comité de lecture des éditions Grasset. Tout fascine dans la vie de Kim Jong. Louis. Sa pensée, son art, la façon dont il sait lire action, contemplation. Non seulement les lire, mais les lier, action et contemplation. Sa sérénité absolue atteinte au travers d'une vie déchirée. Son domaine, c'était l'écriture. Il en inventa d'ailleurs une, à la fois peinture et poésie. Mais il fut aussi ministre du roi, inspecteur royal, secret, directeur de la grande université confucéenne, jusqu'à ce jour de 1840, où il est envoyé en exil sur l'île de Jeju. C'est tout cela, écrit Christine Jordis, qui m'a décidé à entamer ce voyage intérieur et à enquêter sur l'art et la sagesse de celui qui est considéré comme le plus grand calligraphe de son époque. Qu'il ait vécu en un temps si lointain, en une partie du monde si éloignée de la nôtre, ne me fut pas un obstacle, dit Christine Jordis. Bien au contraire, les valeurs auxquelles il adhérait dans la Corée confucéenne, écoute de l'autre, sens des responsabilités, pourraient bien s'imposer comme un contrepoint nécessaire à la brutalité d'une époque, la nôtre, qui a perdu ses repères. Alors lisons un passage, tout simplement, de ce magnifique livre qui nécessite que le lecteur se recueille. Fasse silence en lui avant de lire. Ça demande un effort à la fois de disponibilité et de concentration. Cet auteur, ce sage, tout au long de sa vie, il reviendra aux textes fondamentaux et surtout au moment de la préparation de l'examen de recrutement qu'il a réussi en 1819. Début de sa carrière de fonctionnaire. Cet homme s'est mis à lire abondamment, et tout en lisant, il notait, il écrivait, il peignait ce qu'il écrivait, il peignait ce qu'il découvrait. C'est pas un ensemble clos immuable, et la liste des classiques ne s'arrête pas là, car il n'existe pas de texte révélé, pas de Dieu non plus. Mais c'est un corpus en constante mutation, des livres sacrés du confucianisme, des livres qui révèlent à l'homme ce qu'il peut devenir. Pour Kim, cet homme-là, qui est vraiment un sage, qui incarne une sagesse tout à fait singulière, ces classiques qu'il lisait jour après jour, constitués comme une réserve d'expérience et de sagesse humaine, et s'y reportaient pour s'assurer de la conduite à tenir, pour être simplement, pour se ressourcer, se retrouver. La vie se déroule heureuse dans cette grande maison où il habite. Rien ne semble menacer l'ordre régnant. Et pourtant, cette belle régularité va voler aux éclats. L'enfant est retiré à sa famille, à son père qui le guide, à ses frères, sa sœur qu'il aime, à l'atmosphère studieuse dont il est entouré, non par l'effet d'une mort, mais d'une adoption, la sienne. Quand il eut 8 ans, son oncle, le chef de la branche aînée de la famille, comme il n'avait pas de fils et donc pas d'héritier, demande à l'adopter. Telle était la coutume dans cette société patrilinéaire. Il fallait que la branche aînée se perpétue, que demeure ce support essentiel, un fils, quoi qu'il doive en coûter aux branches annexes. Amputation et sacrifice, ce n'était pas rare. C'est pourquoi le don d'un fils, fut-il unique, n'était pas considéré comme scandaleux, tout au contraire. Et Kim, avec le consentement de sa famille, quitte les siens, père, mère, frère et sœur, son monde et la campagne et les tombes de ses ancêtres et sa vie ordonnée pour rejoindre son oncle à Séoul, la grande ville. Son père devient son oncle et son oncle son père. Son oncle doit maintenant l'appeler père. Son père très aimé, très admiré. Faut-il renoncer à lui dire père? Alors, oui, nous allons de surprise en surprise en lisant ce livre. Nous vous le recommandons à condition que vous preniez le temps de le lire lentement, car on entre lentement avec un sage dans un paysage divers qui finalement nous ouvre à des paroles et des secrets qui viendront enchanter notre vie et qui feront de nos journées une poésie inattendue à travers cette sagesse qui vient du fond des âges et nous en témoins aujourd'hui, dont nous avons besoin aujourd'hui. Une sagesse simple, voir, regarder, garder en soi ce que l'on voit et se laisser imprégner par ce silence pour communiquer avec les autres la beauté du réel.
Merci Père Willem. Voici donc le titre de ce livre que je vous rappelle, Paysages divers de Christine Jourdis, sous-titre Voyage en compagnie d'un sage, paru chez Albin Michel en janvier 2016, tout récent. Je vous présente à mon tour un premier livre dont la bibliothèque diocésaine vient de faire l'acquisition. Il s'agit de « Jésus et le divorce » de John Paul Meyer, paru aux éditions du Cerf en février, mais février 2015. Donc ce n'est pas tout à fait récent. John Paul Meyer est un prêtre catholique américain, docteur en écriture sainte et professeur d'exégèse à l'université Notre-Dame, une des plus prestigieuses universités des États-Unis. Il est considéré comme l'un des plus grands exégètes contemporains et il est l'auteur d'une très impressionnante étude sur le Jésus de l'histoire, 4 tomes qui ont été édités entre 1991 et 2009, dont le titre général était « Un certain juif, Jésus, les données de l'histoire ». Et en fait, le petit livre dont je vous parle, « Jésus et le divorce », est tiré du volume 4 de cette grande œuvre parce que les éditions du CERF ont pensé qu'il était important de rééditer ce passage d'une manière plus accessible à tous, étant donné les besoins actuels de réflexion dans le cadre du synode sur le thème de la famille. Pour cette édition spéciale, l'auteur a réactualisé son texte et l'a complété d'une préface et d'une nouvelle conclusion. Effectivement, il pense que son travail peut être utile dans les débats actuels de l'Église autour du divorce, dont vous savez sans doute qu'ils sont compliqués et pleins de contradictions. En fait, John Paul Meyer réfléchit en historien, se demandant si les mêmes règles doivent subsister aujourd'hui, alors que le contexte social et religieux a tellement changé. Mais il ne veut pas vraiment prendre position. Il estime que c'est le rôle des responsables de l'Église auquel il veut simplement apporter sa contribution de spécialiste pour éclairer les futures décisions. C'est un livre qui est une étude exégétique extrêmement minutieuse pour essayer d'atteindre une reconstitution historique aussi précise que possible de ce que Jésus a vraiment dit et voulu dire à propos du divorce. Et il montre clairement que ce que les évangiles et saint Paul nous ont transmis de cet enseignement est vrai, sans aucun doute possible. Jésus a donc totalement interdit le divorce et l'a amené sur le même terrain que l'adultère, que la loi de Moïse proscrit sans contestation possible. Il nous invite donc à comprendre le fonctionnement de la tradition juive au temps de Jésus et nous découvrons un contexte de droit patriarcal très défavorable aux femmes, où de fait l'homme peut répudier sa femme pour à peu près n'importe quelle raison. Parce qu'elle fait mal la cuisine ou parce qu'elle n'est plus assez jolie. Quelques rares textes de l'Ancien Testament donnent des indications pour essayer de limiter très légèrement le pouvoir absolu du mari. Mais ce sont des cas particuliers, donc très rares, et de toute façon, il n'y a aucune règle clairement définie. En tout cas, on ne parle jamais du sort de la femme répudiée, ni même de celui des enfants. Tout le contexte de cette époque montre une grande facilité accordée aux hommes pour renvoyer une épouse qui ne plaît plus, et les quelques exhortations bibliques à la modération n'ont jamais douté d'un pouvoir masculin indiscutable et à sens unique, puisqu'en ce qui concerne les possibilités de divorce, la femme n'a apparemment aucun droit. Donc l'enseignement de Jésus va s'inscrire en opposition évidente au comportement habituel des Juifs de son époque. Il ose interdire ce que des aménagements de la loi autorisent. Mais Jésus fut non seulement contesté, mais parfaitement ignoré dans le judaïsme, où l'on ne réfléchira au divorce qu'après les années 200-220 après la mort du Christ. Mais pour autant, dans le christianisme naissant, la prise de position de Jésus eut également beaucoup de mal à être acceptée. Jésus demandait une radicalité absolue et imposait une règle qui était tellement opposée à la nature masculine que dès l'origine, on a essayé de trouver des adoucissements pour rendre vivable cet idéal très beau, mais considéré comme inatteignable. L'interdit du divorce semblait tellement dur que le célibat va souvent sembler préférable. Il est presque amusant, en lisant ce travail de reconstitution historique, de constater le peu de changements dans notre monde actuel. Les mentalités n'ont pas beaucoup évolué depuis Jésus et l'on trouve toujours cet enseignement irréaliste, voire choquant. Certains chrétiens le jugent même incompatible avec la charité habituelle de Jésus. En tout cas, l'interdit du divorce est avéré historiquement comme règle voulue par Jésus, nous dit John Paul Meyer. Et cela fait réfléchir depuis plus de 2000 ans et c'est loin d'être fini. Vous trouverez donc ce livre, Jésus et le divorce, de John Paul Meyer, à la bibliothèque diocésaine rue Saint-Aimant à Chartres. Voici à présent le père Roger Willem qui vous présente un deuxième ouvrage.
Le deuxième livre que je présente, celui de Jean-Claude Guilbault, Le tourment de la guerre, paru aux éditions L'Iconoclaste au mois de novembre 2015. C'est un livre difficile, très exigeant, qui lit expérience personnelle, le vécu de cet homme qui a fait un travail considérable, dont nous allons parler. J'ai vu sur nos écrans Parade, parade de meurtriers qui organisaient la mise en scène de l'horreur. Oui, j'ai vu sur nos écrans. Ils paradaient, ces meurtriers, bourreaux cagoulés de noir, futures victimes en tenue orange. Face à ces torrents de violence, serons-nous restés droits, sans devenir nous-mêmes barbares? Aurons-nous assez de cran et de calme pour regarder en face les monstres qui nous habitent? La guerre est une prodigieuse énigme dont le feu, une fois encore, revient nous surmonter, mêlant sa propre histoire de fils d'officier et d'ancien reporter de guerre à son talent d'analyste, Jean-Claude Guilbault se penche sur cette vérité encombrante, brutalement ressurgie du fond des ténèbres. L'homme a toujours fait et aimé faire la guerre, convoquant ses souvenirs et ses lectures, retournant sur les lieux des grandes batailles, scrutant toutes les époques, il enquête sur cette effroyable passion qui nous fascine et nous répugne tout à la fois. Ce voyage au bout de la violence, comme un miroir qu'il nous tend, apporte un éclairage engagé et précieux sur les événements contemporains que nous vivons et qu'il importe de comprendre. Voici un passage qui est lié à la Grande Guerre. Aujourd'hui, un siècle après la Grande Guerre, cette horreur psychique a beaucoup progressé dans les pays occidentaux. Certains chiffres sont même stupéfiants. Celui-là, par exemple, qui concerne l'armée américaine. Dans l'ensemble des enquêtes publiées depuis 2002, on donne une estimation moyenne de 20% de blessés psychiques parmi les soldats en opération. On a pris désormais la vraie mesure de ce que les Américains appellent « post-traumatic stress disorder » ou PTSD. De prime abord, cette sensibilité accrue, cette vulnérabilité psychique face à la guerre peuvent être interprétés comme autant de bonnes nouvelles. Sortirons-nous peu à peu de cette inhumanité belliqueuse qui semble longtemps et paradoxalement le propre de l'homme? Basculons-nous au contraire dans un néo-pacifisme estimable mais ambigu? Telle est bien la question. Et si vous lisez ce livre qui exige beaucoup d'attention, vous trouverez le développement d'une réponse qui donne à réfléchir pour comprendre l'actualité et aller au-delà de ce qui est apparemment insolite pour comprendre le sens d'une histoire qui se déroule avec nous, quelle que soit la situation que nous adoptons. Nous sommes pris dans le mouvement de cette histoire en cette année 2016. Faire la guerre, être artisan de paix, nous sommes tous invités à réaliser cette histoire.
Merci Père Willem. Il s'agissait donc du livre de Jean-Claude Guillebeau, Le tourment de la guerre, paru aux éditions L'Iconoclaste en novembre 2015. Alors, je vous présente à mon tour un deuxième ouvrage qui vient aussi d'être acheté par la bibliothèque diocésaine, bien qu'il ne soit pas non plus tout à fait récent, puisqu'il date de septembre 2014. Mais c'est un livre utile et donc une acquisition importante. Il s'agit d'Eros enchaîné, d'André Paul, qui est paru donc aux éditions Albin Michel. André Paul est ce qu'on peut appeler un géant intellectuel. Il est docteur en théologie, bibliste, historien de la Bible réputé, spécialiste du judaïsme et des origines du christianisme. Il est aussi docteur ès lettres et diplômé en langues sémitiques comme l'hébreu, l'éthiopien, le syriaque, l'araméen. Et il a encore beaucoup d'autres compétences, entre autres la culture gréco-romaine antique. Comme dans le premier livre que je vous ai présenté aujourd'hui, il s'agit ici de retracer les origines historiques des règles canoniques concernant le mariage chrétien. Mais cette fois, l'auteur ne reste pas neutre, il s'engage personnellement et défend âprement son point de vue, qui est loin d'être celui de l'institution ecclésiastique. André Paul fait partie de ceux qui refusent d'admettre que les crispations dogmatiques du christianisme concernant la sexualité ont un quelconque rapport avec les enseignements de Jésus. Il ne peut pas comprendre qu'une religion de l'amour puisse engendrer une telle hostilité envers l'amour charnel. Il considère que la sexualité a été normalisée et codifiée par l'Église d'une manière inhumaine. Car à force d'identifier sexualité et péché, l'institution en est arrivée à réprimer une fonction essentielle à la reproduction de l'espèce, alors que pourtant elle voudrait encourager la procréation. Donc elle se contredit. L'auteur remonte le temps et montre que cette mauvaise compréhension de la sexualité est liée aussi à la vieille habitude du mépris de la femme en général, ce qui n'est pas propre à la tradition judéo-chrétienne, mais s'enracine aussi dans la culture grecque, culture qui a largement influencé les premiers auteurs chrétiens. Comme Clément d'Alexandrie, par exemple, qui fut un des premiers théoriciens chrétiens au IIe siècle, à établir un code de morale sexuelle très austère, où le plaisir est suspect et donc à éviter. André Paul nous raconte aussi ses propres souvenirs de l'enseignement très orienté qu'il a reçu dans sa jeunesse, où on lui apprenait la suprématie absolue du masculin qui demande pour être réalisé de s'arracher au féminin et à l'éros. Il va jusqu'à citer, in extenso, une parole d'un prêtre sulpicien dont il ne donne pas le nom quand même, mais qui disait le plus sérieusement du monde ceci, je vous lis la phrase, « Nous, prêtres, nous avons renoncé à l'amour d'une femme. Mais dans sa grande miséricorde, le Seigneur nous a offert une compensation, l'affection des jeunes gens. » Donc, vous comprenez bien qu'André Paul dénonce sans langue de bois tous les déséquilibres et les névroses qu'il a pu constater autour de lui et qui venaient de cette morale sexuelle mal intégrée, des divers interdits qui oppriment les consciences sans les aider. Il attend de l'Église une révision du modèle conjugal qui ne confonde plus sexualité et péché. Mais il va encore plus loin, puisqu'il demande aussi que l'Église puisse accepter avec plus de tolérance toutes les mutations actuelles de la société, comme l'habitude de la contraception, le divorce bien sûr, mais aussi l'homosexualité, le transgenre, etc. Il démontre avec beaucoup de culture et d'intelligence que les textes bibliques de référence ont souvent été fort mal compris et déformés par des dérives doctrinales au fil des siècles. Il espère surtout de nouvelles interprétations, plus adoucissantes, plus circonstanciées, mieux adaptées aux réalités du monde moderne. Il a fondé beaucoup d'espoir sur le pape François et fait confiance à son approche pleine de bonté et de miséricorde. Mais, et voilà le problème du livre dont nous parlons, Eros enchaîné, c'est qu'il a déjà plus d'un an et que depuis André Paul a déjà fait paraître une suite au titre encore plus révélateur qui est « La famille chrétienne, ça n'existe pas ». Où il constate que malgré les synodes, l'Église continue de s'obstiner à imposer des règles qui n'ont plus rien de réaliste dans le monde actuel. Il a donc perdu visiblement un peu de l'espoir qu'il mettait en l'intervention du pape François, qui, pense-t-il, est trop freiné par les crispations d'une grande partie du magistère. Voilà. Si les positions très novatrices d'André Paul peuvent étonner, surtout que c'est un monsieur qui a plus de 80 ans, il reste qu'il est important de le lire parce que ses paroles sont le fruit d'une longue réflexion étayée par une culture pharaonique et d'une grande rigueur intellectuelle. Il sait de quoi il parle, tout est fondé. Et son grand âge, en fait, lui a apporté aussi une riche expérience qu'il met à notre service pour notre propre réflexion sur le mariage et ses règles en christianisme. Je vous rappelle donc le titre de ce livre d'André Paul, « Eros enchaîné », paru chez Albin Michel en 2014 et que vous pourrez trouver à la bibliothèque diocésaine, rue Saint-Aimant, à Chartres. Et je vous dis à présent au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.